C'est bon. Bienvenue dans Détournement féministe. Donc, on se retrouve cette émission pour parler de l'humour. On a choisi de parler de l'humour aujourd'hui parce que ça nous semble être un sujet intéressant à aborder d'un point de vue féministe. Et on avait envie de se poser plusieurs questions. D'abord, de quoi rit-on ? De qui rit-on et pourquoi est-ce que ça nous fait rire ? Et puis en fait, qu'est-ce que dit l'humour de notre société ? Donc on va voir un petit peu dans cette émission que l'humour n'est pas détaché de tout code social, mais qu'il s'inscrit dans une logique et dans des règles qui sont définies par la société dans laquelle on vit. Donc on peut dire que l'humour n'est pas neutre parce qu'il véhicule des valeurs, des idées, des manières de penser. Et on va voir que l'humour majoritaire, donc celui qui est le plus répandu, bah, il s'appuie sur des ressorts en fait assez bien connus. Donc on rit pas de n'importe qui, mais on rit en général des meufs, des noirs, des arabes, des juifs, des blondes, des homos. Bref, l'humour reproduit en fait les dominations qui existent dans notre société. On rit de ce qui n'est pas la norme, de ce qui sort des codes qu'on nous a inculqués. On rit de ce qui nous fait peur et de ce qui dérange. On rit pour mettre à distance et marquer une différence. Donc les questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette émission sont les suivantes. Pourquoi et comment l'humour reproduit-il des oppressions existantes ? Et comment on peut essayer d'en faire une arme contre ces oppressions ? Ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut essayer d'utiliser l'humour différemment pour pas reproduire ces oppressions-là ? Et tout au long de l'émission, bah, on sera aussi accompagné de Tani, qui est une stand-upeuse qui est venue faire un spectacle à Tours en janvier dernier. Et à l'occasion de son spectacle, on l'a donc rencontré pour lui poser quelques questions. Donc on va d'abord l'écouter se présenter elle-même dans un petit extrait.
Alors, donc je m'appelle Tani, j'ai 29 ans et je suis une donc jeune humoriste qui fait du stand-up à Paris. Et qui vient là ce week-end faire un spectacle de stand-up avec deux copines dans le cadre du festival Désir Désir.
Ok, est-ce que tu peux nous dire de quoi il va parler ton spectacle ?
Alors, il est intitulé le One Lesbian Show. Et effectivement, ça va plutôt aborder les thèmes LGBT. Et d'autres thèmes aussi, comme le féminisme. Bon, je ne sais pas encore de quoi elles vont parler, mais elles parlent aussi de voilà, sexualité, grossophobie, etc. Donc voilà, mais ça se veut un spectacle, en tout cas, inclusif.
Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment toi t'es venue au stand-up et pourquoi ?
Alors, moi, j'aime beaucoup le théâtre et j'ai fait beaucoup de théâtre d'improvisation. À Paris, avec la Ligue d'improvisation de Paris. C'était une ligue amateur, mais on faisait au moins un ou deux spectacles par mois. Et donc ça, la scène, ça m'a beaucoup plu, parce que au début, j'étais quand même quelqu'un de plutôt timide, et du coup, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, prendre la parole en public, etc. Donc j'ai fait beaucoup d'impro, et après, venu le moment où j'avais envie aussi d'écrire mes propres textes, et d'expérimenter ça, d'être toute seule sur scène. Donc, et comme par ailleurs, j'aime beaucoup l'humour. Enfin, je regardais beaucoup de. J'étais fan de Florence Foresti, Gad Elmaleh, etc. Et donc, du coup, j'ai voulu me lancer aussi, m'essayer dans l'humour et donc, du coup, dans le stand-up. Alors, oui, alors après, en fait, au moment où j'ai voulu me lancer. Je me souviens que j'avais fait un stage de one-man show. et du coup, on avait travaillé sur des sketchs d'humoristes connus. Et donc, voilà, on travaillait plutôt la technique. Et à partir du moment où on nous a dit, là, ce serait bien que vous écriviez vos blagues à vous. Au début, j'ai complètement bloqué, quoi. Je savais vraiment pas de quoi parler. Et pourtant la performance me plaisait, tu vois. Donc bref, du coup j'ai arrêté un peu. Et après, en fait, j'ai fait mon coming out, j'ai vécu des trucs dont après je me suis dit, mais j'ai trop envie d'en parler en fait, et de rire avec. Et donc du coup après là, ça s'est ça s'est un peu, comment dire, déclenché, où là, bah, du coup, je me suis dit, ah ouais, je pourrais parler de mes cheveux, mon adolescence, et puis bah, cette histoire-là, pardon, de coming out, de découverte de la communauté LGBT, etc. Et donc, du coup, après, ça est venu naturellement, quoi, ça a déroulé un peu.
Voilà, donc on vient d'entendre Tani qui se présentait. On va la retrouver tout au long de l'émission. Donc elle nous a parlé un petit peu de ce que c'était l'humour pour elle, pourquoi elle avait choisi de faire du stand-up et ses réflexions autour de ça. Donc on la réécoutera plus tard. Alors pour commencer, on avait un petit peu envie d'aborder le fait que l'humour, comme j'ai dit tout à l'heure, est basé sur des mécaniques bien précises, c'est-à-dire qu'il reproduit les dominations qui existent dans la société. Donc le plus souvent, l'humour est basé sur ces dominations-là, c'est-à-dire qu'il va, on va chercher pour faire rire à se moquer de certaines personnes, donc en l'occurrence des personnes qui sont plutôt dominées dans la société, donc les femmes, les personnes racisées, les handicapés, etc. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que cet humour, sous couvert de faire des blagues, en fait, transmet des idées, des valeurs et même des manières de penser sur de quoi est-ce qu'on a le droit de rire et de quoi est-ce qu'on n'a pas le droit de rire, ou en tout cas qu'est-ce qui est acceptable de quoi est-ce qu'on peut rire, de quoi il est acceptable de rire et de quoi il n'est pas acceptable de rire. Donc sur cette mécanique un petit peu de l'humour des dominants, enfin qu'on pourrait appeler ça l'humour des dominants. Notamment, j'avais envie de vous faire une petite référence à la citation des proches qui dit « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Et en fait, dans cette citation-là, quand il dit « On peut rire de tout avec n'importe qui, mais pas avec n'importe qui », ça sous-entend que, en fait, finalement, on aurait le droit de faire des blagues sur certaines personnes, mais dans un contexte où, voilà, on sait que peut-être il n'y a pas les personnes concernées ou... En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'entendre. Et en fait, il y a dans le bouquin de Sandrine Rousseau qui s'appelle Lutter ensemble, elle reprend assez justement cette citation en se questionnant en fait qui est le on dont on parle dans on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Elle dit bah en fait ce on il est pas du tout neutre en fait, elle dit il est facile à situer. Blanc, patriarcal, universaliste et même humaniste à ses heures. Il se vit comme au centre et en dehors du monde, dont il se pense être l'incarnation la plus normale, alors qu'il n'est finalement que la plus normée, c'est-à-dire le plus pur produit de la société dominante. Et s'il peut rire de tout, lui, c'est bien parce que pas grand-chose ne l'atteint, dans la tour de cristal depuis laquelle il observe ce qui l'entoure, voire même parce qu'il peut rire du mal qu'il est en position de faire aux autres. Ce rire de l'omnipotence, c'est la nécessité des dominants d'entretenir la fable qui leur permet de continuer à ignorer ce qu'ils sont au monde, et ça n'est finalement rien d'autre qu'un bouclier pour les protéger d'elles et eux-mêmes et du reflet dans le miroir tendu par celles et ceux qu'ils dominent. Donc voilà, en fait, juste pour appuyer sur le fait que, évidemment, quand on fait des blagues sexistes ou des blagues racistes ou qu'on se moque d'une certaine catégorie de la population, c'est évidemment parce qu'on est en position de dominant par rapport à cette minorité. Et on l'oublie bien souvent, en fait, cette situation de domination.
Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on s'est souvent dit, mais l'humour, ça donne vraiment du pouvoir et du charisme. Et on le voit souvent hein, dans les soirées ou dans des moments, le fait d'être drôle, c'est souvent ce qui va donner la possibilité de gérer un peu la soirée ou le moment qu'on passe avec les autres, quoi. Du coup, ça fait que celui qui fait rire le groupe, c'est celui qui mène le groupe. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Ça donne le pouvoir parce que c'est la personne qui va définir ce qui est acceptable de rire ou pas et à quelle limite est-ce qu'on place ce de quoi on peut rire ou pas. Et on trouve ça intéressant de rappeler par exemple que le rire était dicté par les rois à une période, et on a tous un peu cette image dans des films de c'est le chef du gang, tant qu'il s'est pas mis à rire à une blague, s'il y a un truc drôle ou pas, en fait personne ne rit parce que c'est lui qui va dicter si à ce moment là est-ce qu'il faut rire ou pas. Et c'est là où on voit bien cette notion de pouvoir. Et bizarrement, les chefs de gang, c'est aussi souvent des mecs, la plus grande partie du temps. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on se dit que un peu la transition sur le fait que l'humour est politique, puisque donc ça revient à, on peut, en fait, c'est l'humour excuserait tout, sauf que comme tu le disais, en fait, généralement on rit de dominés, mais si c'est pour rire, alors on peut dire les pires atrocités, quoi.
Et puis oui, c'est aussi l'idée que par le rire, en fait, on va créer une certaine complicité avec les gens avec qui on rit. Et donc cette complicité, ben, elle se fait souvent contre d'autres gens. Donc si on rit des femmes, en fait, on va créer de la complicité entre mecs parce qu'on se fout de la gueule des femmes et c'est bien marrant. Ou de la même façon, on peut rire des homos ou des arabes ou des noirs. Mais donc en fait, le rire est bien un choix politique parce que on choisit de montrer que on accepte ou pas telle ou telle blague.
Et du coup, on a posé la question à Tani de si pour elle l'humour c'était politique. Et en fait, c'est vrai que sa réponse, c'est de se dire qu'à partir du moment où on est sur scène et où on porte une parole et que les gens nous écoutent, très clairement, oui, l'humour c'est politique parce que dans ces cas-là, on va pas pouvoir. Enfin, il faut que tout le monde rigole. C'est sa réponse, c'est que si c'est raciste, si c'est sexiste, si c'est homophobe, etc., tout le monde rigole pas. Et du coup, à partir du moment où on a la parole, évidemment, l'humour devient politique puisqu'on porte une parole publique
et dont on est responsable,
dont on est responsable carrément. Et du coup, après, on lui a demandé est-ce qu'elle se sentait mise à part en tant qu'artiste politisée et qu'est-ce que c'est en fait d'avoir une parole politique dans l'humour. Et du coup, voilà la réponse qu'elle nous a faite dans le petit extrait.
Moi, c'est le début, mais par contre, j'entends des gens qui me disent. Ouais, tu parles trop de trucs de lesbienne, tu devrais pas t'enfermer là-dedans, fais attention, moi j'aime pas trop le côté porte-drapeau et tout ça. Et ça vraiment ça m'emmerde, quoi. Et je suis passée par des moments où j'étais. Et enfin, mais ça continue un peu, hein, franchement, hein, parce que des fois je me dis, bon, est-ce que quand même c'est vrai que je dois écouter ce truc-là? Et je me surprends aussi moi-même à, quand je vais dans des endroits, à me dire, bon, je vais pas faire que des blagues sur les lesbiennes parce que sinon ça va pas passer, donc je m'autorise, allez, trois blagues là-dessus, et puis après je me dis, non, on va rentrer dans le, entre guillemets, consensuel. Mais c'est chiant, et d'autant plus que, par exemple, je me suis bien pris la tête avec une asso qui m'avait contacté sur Instagram, qui se veut, en gros, bon, je vais pas la citer, je vais pas faire, mais en gros, qui se veut accompagner les filles, les jeunes filles en difficulté, leur montrer qu'elles doivent avoir confiance en elles, les orienter vers des perspectives professionnelles, etc. Donc sur le fond, j'étais grave chaude, quoi. J'étais là, ouais, c'est trop bien ce que vous faites. Pas de soucis, j'y vais. Puis en plus, c'était là, alors oui, en plus, vous, voilà, vous êtes d'origine antillaise, donc je pense qu'il y a des jeunes filles, ça va leur parler, machin, parce que c'est plutôt aussi des jeunes filles des quartiers, voilà, populaires, machin. Et donc, je leur dis, bon, ça marche. Et elle me dit, de quoi vous allez parler? Alors, je dis, je vais faire un peu classique. Enfin, c'était pour une intervention de 10-15 minutes, donc je dis, en général, je fais, voilà, 5 minutes sur mes origines, les cheveux, 5 minutes sur le coming out, et puis un petit truc d'ouverture à la fin et tout. Et elle me dit, si c'est possible, pas le truc sur le coming out.
Oh non.
Et j'étais là, genre.
Quoi?
Au début, j'ai rien trop dit, et après, ça a maturé dans ma tête, et je lui ai fait un mail de 50 lignes en lui disant, mais. Vous comprenez là ce que vous êtes en train de me dire? En plus, elle me disait oui, vous comprenez par rapport aux parents, etc. Et je lui ai dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites là? Déjà, je vous ai rien demandé. Enfin, en gros, c'est vous qui me contactez sur Instagram. Il y a 1000 photos où j'ai des drapeaux LGBT. Enfin, donc, vous savez quoi, quels sont mes thèmes. Et là, vous venez de me dire de pas dire ça. Et en plus de me dire, vous comprenez, par rapport aux parents, et je dis, mais du coup, moi, je suis censée le recevoir comment? Ça veut dire que moi, je suis problématique, que moi, mes parents devraient avoir honte de moi. Et donc, je lui ai dit, c'est même pas la peine, quoi. Je viens pas, c'est mort. Moi, je viens pas pour cacher une partie de moi-même devant des filles. Et c'est le message que je défends, que moi, j'ai été dans cette position et on m'a jamais montré de lesbienne. Et donc, je vais pas être complice. Enfin, c'est clair, quoi. Et elle était là, désolée de vous avoir blessé, mais vraiment non, nous on peut pas faire ça, c'est vraiment pas des sujets qu'on est prêt à aborder, tout ce qui on ne traite pas les sujets de sexualité et tout. Et je lui ai dit, mais c'est marrant comme quand on est hétéro et qu'on parle de son copain, c'est pas de la sexualité, mais par contre quand on est lesbienne, c'est de la sexualité, parce que moi dans mes blagues, je parle pas de position sexuelle, etc. Je parle de discrimination, de... Et je lui ai dit, ce discours, il est pas entendable, quoi. Bon, bref, du coup, ça s'est fini comme ça. Mais j'étais vraiment, ça m'a vraiment, j'étais mal pendant une semaine, parce qu'en plus, t'as vraiment l'impression d'être utilisé, quoi. On vient de voir et on dit, ah, vous, c'est bien, vous montrez une certaine diversité, machin. Et en fait, ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est juste ma couleur et ma coupe de cheveux. Enfin, c'est quoi, te dire, quoi? Ah, ça m'a... Et en plus, et après, je lui ai dit, bah, franchement, c'est dommage parce que, en gros, moi, c'est vrai, tu vois, que je sais que certains endroits où je vais jouer, où potentiellement je prends un risque, et je sais que, par exemple, hier, j'ai joué, j'ai fait en 10 minutes, c'était un partenariat avec un centre d'animation de la ville de Paris, on a joué devant des collégiens d'un lycée du 19e. Bah moi-même, tu vois, j'étais stressée, je me disais comment ils vont réagir, nanana. Mais à la limite, c'est moi qui prends le risque, et puis si ça se passe mal, bah ça se passe mal, et bah, bon, c'est pas grave. Moi, je suis contente, même si ça se passe mal, je me dis, ah, il y a peut-être une petite lesbienne dans le coin qui aura entendu que c'est possible d'être une fille et d'aimer les filles. Et donc, du coup, c'est moi qui prends le risque. Vous, si les parents, ils sont pas contents, bah vous leur direz, ah, bah désolé. Enfin, mais je trouve ça dommage, en fait... En faisant ça, on règle jamais le problème, quoi. Si même les assos qui prônent... En plus, j'étais là, genre, sur leur compte Instagram, il y a des photos de Megan Rapinoe. Je veux dire, à un moment donné, vous pouvez pas mettre des messages avec Megan Rapinoe et dire « Ayez confiance en vous, les filles, et tout. » Et après, organiser un événement avec les parents et dire « Surtout, ne parlez pas de lesbianisme, de machin. » Je suis alors... Il y a aucune cohérence dans votre approche, quoi. C'est pas facile, mais faut y aller step by step. Et après moi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, justement, comme c'est un truc dont j'avais envie de parler, et c'est ce que je dis, et je pense que en fait, moi j'avais pas envie de faire du stand-up pour faire du stand-up, faire des blagues sur. Le métro, enfin, même si je rien contre les gens qui font des blagues sur le métro, mais genre, moi, j'aime bien mettre du sens et du politique dans ce que je fais. Donc après, si ça vous plaît pas, bah, tant pis, quoi. Et c'est pas grave si je suis pas Florence Foresti plus tard, quoi. Mais en tout cas, c'est ça qui me fait plaisir quand je suis sur scène. Donc, je veux pas m'arrêter de le faire, quoi. Et mais bon, ça, c'est sûr que les gens, certaines personnes ne comprennent pas. Et je leur dis, c'est pas que je m'enferme, c'est la société qui est fermée. En vrai, il y a plein de personnes qui vivent la même chose que moi, tout comme, enfin, c'est juste parler d'un point de vue différent, en fait.
C'est marrant comment mais... une ouverture, une fenêtre devient un truc d'enfermement.
En fait. c'est ça. Ouais.
Vous êtes de retour sur Détournement Féministe. Alors, comme nous, on a décidé qu'il n'y a pas de quota sur les blagues dans cette émission sur les hommes blancs hétéros. Et ben, on va vous faire une série de blagues en fait tout au long de l'émission sur cette thématique parce que, ben voilà, nous on n'a pas envie de mettre de quota. Alors voici la première. Donc, être hétéra, c'est comme rouler en vélib.
Pourquoi?
Tu sais jamais si c'est toi qui as chopé le vélo pourri ou s'il y en a en fait aucun qui fonctionne réellement. du coup, voilà, c'était pour détendre un peu l'ambiance. On va repartir sur l'humour, qui est à la fois une thématique très drôle, mais à la fois une thématique où, en effet, il y a plein de trucs à dire. Donc, on avait envie de continuer sur cette idée que l'humour est politique et que le rire se pense. Et en fait, on le voit bien dans l'extrait de Tani, puisqu'elle dit que, bah, justement, on lui demande de pas rire de tout. Mais du coup, comme on disait tout à l'heure, qui c'est qui définit de quoi on peut rire ou pas? Et du coup, on avait envie de faire le parallèle avec le fait que l'humour est politique aussi dans ce de quoi on ne rit pas. Et de qui ne veut pas rire de tout, en fait. Et l'idée que ceux qui refusent de rire, c'est souvent ceux qui n'ont pas envie de conforter l'oppresseur dans son rôle de puissant et qui sont ceux qui vont remettre en question un peu toutes les structure de domination. Sauf que c'est pas toujours facile parce que on a tous on a toutes sûrement autour de cette table été traitées de rabat-joie parce que on n'a pas rigolé à une blague et que et nous on n'a pas trouvé ça drôle et soit on n'a pas ri du tout, soit on s'est même rebellé, mais même si c'est pas toujours facile en fonction des contextes et des moyens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que généralement on est traité de rabat-joie. Et du coup, ça met en évidence donc la double arnaque de l'humour des dominants, c'est que c'est l'idée que l'humour excuse tout, en fait, qu'on peut tout dire sous couvert de l'humour. Mais sachant que c'est les classes dominantes qui définissent l'humour sans consulter ceux qui oppriment. Et donc, en fait, qu'on oblige des dominés à rire de ceux qui les heurtent. Et qu'en plus, on leur retire la possibilité de dire qu'ils ont été blessés. Donc non seulement on se fout de ta gueule, mais en plus, t'as pas le droit de dire si t'es pas d'accord qu'on se foute de ta gueule. Puisqu'on va te répondre « Oh, mais ça va, c'était pour rire ».
Donc,
ne pas rire est un choix politique tout autant que de rire à des choses qui ne sont pas forcément définies par les dominants.
Ouais, tout à fait. Et du coup, justement, le problème avec cet argument de dire en fait c'est pour rire, t'es pas drôle ou t'as pas d'humour, c'est qu'on, du coup, on décrédibilise tout à fait la parole des personnes qui vont se sentir, blessé par la blague qui a été faite. Et on peut pas faire en fait comme si les blagues ça transmettait aucune idée ou enfin en fait c'est aussi une manière de dire d'affirmer des choses, de faire passer des idées, etc. Donc on peut pas faire comme si ça c'était juste quelque chose qu'on oubliait une fois que la blague a été dite. Et donc sur cette idée-là que l'humour transmet aussi des stéréotypes, il y a des enquêtes qui ont été faites et qui montrent que justement l'humour va renforcer certains préjugés qu'on peut avoir sur les blondes ou sur les femmes, etc. Donc que l'humour en gros n'est pas neutre. Et donc pour illustrer ça, on va vous passer un petit extrait d'une émission des Couilles sur la table, qui est donc une émission féministe. Et cette émission-là, elle parlait de la Ligue du LOL. Donc la Ligue du LOL, en fait, c'est un groupe Facebook qui regroupait des hommes qui travaillaient dans le milieu du journalisme, de la communication, etc. Et qui, pendant plusieurs années, ont harcelé et attaqué des femmes principalement, ou des militantes féministes, en faisant des blagues sur ces personnes-là, en dénigrant leur physique, etc. Ou même des hommes qui correspondaient pas forcément aux normes de la masculinité. Et donc, elle explique dans cette émission des coups sur la table, comment est-ce que justement ce boys club, donc ce qu'elle appelle le boys club, comment il se renforce en faisant ce genre d'humour, et comment ces blagues sexistes, etc., renforcent encore une fois les stéréotypes. Donc on s'écoute ça.
Cette histoire de Ligue du LOL, c'est une histoire de garçon et d'humour. Et souvent, c'est la base de l'amitié, notamment entre hommes, c'est rire ensemble. Et c'est pour ça que c'est intéressant que ces garçons, ces hommes, se sont donné le nom de Ligue du LOL. Donc, pour les auditrices qui ne l'auraient pas en tête, LOL, ça vient de Laughing Out Loud, en anglais, c'est rire aux éclats. Donc, à la base du groupe, c'était pour rire. Je vais d'abord raconter le genre de blague qui avait cours dans cette Ligue du LOL, de quoi ils riaient, de qui ils riaient. Donc ils ont fait des photomontages pornographiques, ils ont fait des petites remarques, des moqueries,
du dénigrement
général, des commentaires sur des blogs, etc. Mais c'était toujours tourné sur le ton de l'ironie, sur un ton un peu malin, etc. Et puis ils ont fait aussi des canulars téléphoniques. Une des choses qu'ils ont faites, par exemple, le genre de blague qui avait l'air de les faire rire, c'était d'appeler une jeune consoeur journaliste en se faisant passer pour un recruteur prestigieux pour lui proposer du travail. Et ça, c'est ce qui est arrivé notamment à Florence Porcel.
Donc Florence Porcel est journaliste scientifique et elle a d'ailleurs une super chaîne YouTube où elle parle d'astrophysique, ça s'appelle La Galaxie de Florence. Dans son cas, donc, c'est David Doucet, qui est aujourd'hui rédacteur en chef aux Un Rock, qui l'appelle, l'enregistre, se moque d'elle et ensuite met le canular en ligne sur Internet. Et donc il n'a supprimé ce canular que quand elle a parlé de son expérience dans un thread sur Twitter il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça nous dit, Valérie et Robert, ce qu'on trouve drôle? Parce que vous avez travaillé sur l'humour, et l'humour, comme tout, c'est politique. Donc en quoi l'humour, c'est le reflet des rapports de pouvoir?
L'humour, ça permet quoi? ça permet de donner une impression de légèreté à une attaque qui est profondément politique. Il faut comprendre que l'humour, il prend corps dans une société. Il n'est pas hors sol. C'est comme le langage. Quand on nous dit, ah, le langage, c'est pas important. Je vois pas pourquoi les féministes s'acharnent à vouloir modifier le langage. Le langage, c'est ce qui structure une fausse société. Ça la fonde et ça la fait évoluer. L'humour, c'est la même chose. J'avais cité l'exemple des blagues belges, qui est bon un sujet qu'on voit plus trop de Dieu merci.
Oui, c'est plus trop à la mode de faire voilà. Des blagues belges. Non, il y a de nouvelles cibles.
Voilà, il y a de nouvelles cibles. Mais typiquement, au début du siècle en France, il y a eu une très grande immigration belge, à tel point qu'à Roubaix, il y avait plus de Belges que de Français. Avec des réactions anti-migrants très très fortes. Des Belges ont été jetés dans la rivière environnante. Je suis née en Géo, donc je ne sais plus le nom de la rivière. Il y a eu des blessés, il y a eu des choses très très graves. Et c'est dans ce contexte-là que vont naître les blagues belges. Et au fur et à mesure des siècles, on ne rit pas au Moyen-Âge de la même façon qu'on rit à l'époque moderne et qu'on rit à l'époque contemporaine. Et on voit que, par exemple, les blagues sur les blondes, qu'on pense être neutres, etc., sont en fait des blagues profondément misogynes sur les femmes. On en entend moins à l'heure actuelle, on entend plus de blagues sur les féministes. Et on se rend compte, en fait, que dès qu'il y a une nouvelle cible dans la société, un nouveau bouc émissaire, en quelque sorte, il devient la cible de blagues. Typiquement, pendant un temps, tous les comiques de stand-up faisaient des blagues sur les Roms. Là, on peut penser qu'ils vont passer aux migrants, parce qu'il y a une nouvelle cible qui arrive. Donc, donc on constate bien que les cibles de ces gens ne sont pas neutres. Et donc, pourquoi utiliser le biais de l'humour? Parce que déjà... comme l'humour est un mécanisme qui est très peu étudié dans nos sociétés, parce que ça fait du bien, parce que ça fait plaisir, ça fait du bien de rire, on n'a pas trop envie d'étudier ce qui nous fait rire, ça permet en fait de dédramatiser le propos politique. Si je vous tiens un propos raciste sous le biais de l'humour, comme on a tous plus ou moins des réflexes plus ou moins racistes, plus ou moins sexistes, on peut en rire et on ne sera pas tenté de les analyser. Donc ça permet de faire passer des idées politiques, je le répète, sans que les gens s'en rendent parfaitement compte. Mais il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré que si l'humour a pas, par exemple l'humour sexiste, n'a pas beaucoup d'impact sur des personnes féministes, par exemple, ça ne changera pas leur façon de voir les choses, sur des personnes qui seraient déjà sexistes, ça va encore les renforcer dans leurs préjugés. Donc l'humour a clairement un impact, c'est-à-dire que l'étude qui vient d'être citée, on l'a fait aussi sur l'humour raciste, on l'a fait aussi sur l'humour homophobe, et ça a les mêmes ressorts, ça pour conséquence sur des personnes qui sont déjà homophobes, qui sont déjà sexistes, et on peut supposer qu'il y en a déjà assez, il n'y a pas besoin de leur renforcer leurs préjugés, l'humour renforce leurs préjugés.
Donc voilà, c'était pour illustrer nos propos sur la question de l'humour des dominants. On avait aussi envie d'aborder la question du cynisme, parce que là, on pense beaucoup aux blagues qui sont vraiment claires et grasses et tout ce qu'on veut. Mais on peut se dire que le cynisme, c'est une autre manière, en fait, de revenir sur les mêmes systèmes d'oppression. Et c'est souvent plus utilisé, souvent aussi par des milieux de gauche, mais des milieux de gauche blancs, hommes, etc. Parce que, en fait, c'est facile d'avoir l'air plus neutre et d'avoir l'air plus distancié quand on utilise du cynisme. Mais au final, on peut se dire que ça revient exactement à la même chose que de faire des blagues qui sont vraiment clairement des blagues. Et du coup, on voit que le glissement vers le fait de devenir réactionnaire, il se fait assez facilement avec le cynisme, en fait. Et par exemple, moi, un exemple qui m'a vraiment marqué, c'est au moment de la lutte pour le droit à l'avortement, il y avait donc ce manifeste des 343 femmes qui se sont faites avorter, et voilà, il a semblé très drôle à certains de dire que en fait c'était 343 salopes. Alors on nous dirait que bah oui, ils soutenaient en fait le manifeste, etc., mais il n'empêche qu'on refait encore toujours et les mêmes systèmes d'oppression où au final, par ce biais de l'humour, on oppresse des gens en fait en les traitant de salopes, alors que c'est des femmes qui se sont fait avorter et qui luttent pour leurs droits, quoi. Donc voilà, des fois ça peut sembler plus subtil, mais on reste toujours sur les mêmes systèmes d'oppression. Voilà, et donc pour passer à des choses plus folles.
Une petite blague. Combien faut-il de mecs pour changer une ampoule?
3, 4, ils sont pas trop débrouillards.
Et non, un seul, puisque il pose sa main dessus, il attend que le monde tourne autour de lui.
Ah bah oui.
Tellement vrai.
Peut-être qu'on s'écoute une petite musique. Donc on va écouter les Trash Croûtes, Je me maintiens.
Tu ne pourras jamais savoir ce que ça fait. Ton sang froid comme l'hiver t'a congelé comme un steak. Il y a une lumière pâle qui brille au fond de Wet. Tu finiras comme l'épave que tu caches derrière ton masque hideux. Tu pensais que ma folie ne pouvait pas gagner. Eh bien regarde-moi, oui je reviens à nouveau. J'ai le goût de l'amour qui n'est pas compliqué. Si tu veux tout savoir, je reste en vie et toi tu disparais. Capte le bien que je suis debout comme je n'ai jamais été. Comme une vraie survivante, je me sens comme une enfant. Encore debout après tout ce temps, ramassant les morceaux. Alors tu t'es cassé en me quittant encore. T'as dit des mots méchants pour me faire souffrir. Si notre amour était un cirque, le clown c'est toi et tu le resteras. Capte le bien que je suis debout comme je n'ai jamais été. Comme une vraie survivante, je me sens comme une enfante. Encore debout après tout ce temps, ramassant les morceaux.
On vient d'écouter les Trash Croûtes et vous êtes toujours sur Détournement Féministe. On parle de l'humour aujourd'hui. Alors, pour continuer cette émission, on avait envie aussi d'aborder un petit peu le rapport à l'humour en pointant qu'il est différencié en fait selon le genre. C'est-à-dire que, en fait, si on est un homme ou une femme, on va pas forcément avoir le même rapport à l'humour. Et comme on l'a un petit peu dit déjà tout à l'heure, en fait... C'est assez intéressant de remarquer que l'humour, c'est une des bases de la socialisation masculine, c'est-à-dire que c'est un des ressorts de la socialisation masculine et c'est un moyen pour les hommes de sociabiliser entre eux, de faire des blagues, notamment des blagues oppressives. Donc voilà, l'humour est très valorisé chez les hommes et on remarque que même des petits, en fait, souvent... ceux qui vont faire le plus de blagues, qui vont le plus faire rire les autres, etc. C'est souvent des garçons et c'est pas anodin de remarquer ça. Et notamment, déjà c'est aussi lié au fait que par exemple pour faire des blagues et faire rire les autres, il faut quand même avoir une certaine confiance en soi. Il faut oser se mettre en avant, il faut oser prendre la parole devant tout le monde et faire un petit peu le show. Et bien sûr que ça c'est pas aussi facile si on est une fille parce qu'on n'est pas socialisé à avoir cette position là et à se sentir à l'aise de faire ça. Donc déjà on peut remarquer que voilà, de par notre socialisation, on va pas avoir la même aisance on va dire à faire de l'humour, mais aussi que la place de l'humour dans la sociabilité masculine ou féminine n'est pas la même. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, les hommes font beaucoup de blagues, rient entre eux sur d'autres, alors que entre meufs, ça nous arrive beaucoup moins de faire ça. Enfin, en tout cas, si on fait des blagues, c'est pas forcément pour se foutre de la gueule des autres. Et peut-être que en tant que meuf, on va plus facilement aller vers l'autodérision, rire de soi. Enfin, on va plus se rire. Enfin voilà, rire de nous que de se foutre de la gueule des autres. Du coup, on voulait vous passer un petit extrait, toujours de la même émission des Coups sur la table, où elle parle de ça et de comment est-ce que le rapport à l'humour est différencié en fonction du genre.
Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que ces réseaux masculins sont partout, et on a l'impression qu'ils se construisent presque naturellement. Alors moi, je me demande où est-ce que les hommes apprennent à former ces réseaux ? Comment est-ce qu'on peut expliquer autant de misogynie, d'homophobie, de racisme presque inné dans ces réseaux, justement ? Et aussi, comment expliquer que les femmes n'aient pas le réflexe de créer elles-mêmes ces réseaux pour elles aussi ?
Alors je pense déjà que la socialisation, ça va faire beaucoup de mots, mais la socialisation blanche, masculine et stéréosexuelle se construit avant tout contre les autres, c'est-à-dire contre les femmes, contre les racisés, contre les LGBT et contre les hommes qui ont une masculinité qui est jugée pas conforme à la norme. En fait, on demande vraiment aux hommes de pas être tout ça. Avant d'être des hommes, il faut qu'ils ne soient pas des femmes, il faut qu'ils ne soient pas des... Enfin, c'est la pire des injures pour un homme de lui dire qu'il ressemble à une femme. L'expression « pleure pas, t'es pas une fille » pour un petit garçon est d'une grande violence, parce que d'un, elle lui nie le droit d'avoir des sentiments qui sont tout à fait humains, qui font du bien, et en plus, elle rappelle qu'il n'y a rien de plus honteux que d'être une fille. Je crois que déjà, la masculinisation, c'est-à-dire le fait de devenir un homme, est en soi un boys club. Les hommes se socialisent entre eux et deviennent des hommes entre eux, alors que les petites filles deviennent des femmes de manière isolée. Ça, je crois que c'est la première chose. Donc, il faut pas, quand on pense boys club, il faut pas penser des clubs extrêmement formés. Non, c'est le fait de se retrouver entre hommes, de se reconnaître au premier coup d'œil, d'aller boire un café ensemble et de rire de la seule femme de l'équipe, de l'homme qui paraît un petit peu efféminé, du seul salarié noir, etc. C'est ça, les boys clubs.
Donc voilà, en fait, ça nous paraissait intéressant de lier l'humour et le fait que l'humour pratiqué est souvent de l'humour oppressif avec la construction de l'identité masculine. Donc, comme elle dit, ça se construit en fait en opposition à certains groupes et de manière étonnante, c'est les mêmes groupes sur qui on fait des blagues, en fait. Donc ça reproduit bien en fait la manière dont se construit l'identité masculine se retrouve dans l'humour qui est pratiqué aussi entre hommes.
Et du coup, on a un peu posé cette question-là, enfin, en tout cas, dans la discussion avec Tani, on en est arrivé un peu à cette idée-là, puisque elle évolue dans le monde du stand-up, qui est un monde assez masculin, de base. Et du coup, elle nous a fait part de sa réponse à la question, est-il dur de se faire une place dans le milieu du stand-up ?
En tant que meuf.
Bah, c'est mieux maintenant, je pense, qu'avant, mais moi, je trouve que c'est encore dur, quoi, parce que c'est un milieu très masculin. Et alors, il y a plusieurs choses déjà dans la société dans laquelle on vit. C'est hyper nouveau que les femmes sont drôles. et donc, du coup, en fait, tu te rends compte que déjà le public est plus préparé à rire d'un humoriste mec qu'un humoriste meuf, en fait. J'ai l'impression que quand t'es une fille et que tu montes sur scène, déjà les gens vont plus être ah ouais, est-ce qu'elle va nous faire rire, tu vois. Et alors après, il y a aussi, parce que la majorité des plateaux, le public est quand même plutôt majoritairement masculin. Et après, il y a un autre effet qui est que la plupart des personnes qui gèrent les comedy clubs ou qui gèrent les plateaux sont des hommes. Et du coup, je pense qu'ils s'en rendent peut-être pas compte, mais du coup, ils programment plus de... Enfin, là, je les excuse un peu. Ils me programment plus d'hommes sans forcément se remettre en question là-dessus. Et aussi parce que, tu sais, il y a un peu l'effet boys club, quoi, où forcément, ils ont plus de potes mecs, donc forcément, ils ont envie de les faire jouer plus. Et donc, en fait, il y a un truc qui fait que t'as moins de filles programmées et enfin c'est tellement tout un enchevêtrement, parce que du coup quand t'es une fille et que tu commences à te faire un nom, ok, tu vas réussir à être programmée dans des lieux à renommer, mais souvent tu vas être la seule fille ou limite vous êtes deux, et donc du coup moi je sais que forcément quand tu vas jouer dans un endroit où t'es la seule fille, t'es moins dans ce truc de, tu vois, eux ils vont à côté, avant de jouer, je sais pas, ils vont se faire plein de blagues, toi t'es pas forcément à l'aise, surtout quand tu commences, donc et je pense qu'en fait inconsciemment aussi ça joue dans la manière dont tu vas jouer après, quoi, parce que eux ils sont dans leur petit cocon et tout, toi t'es là, tu découvres, t'es un peu toute seule, du coup tu stresses un peu dans ton coin, et puis là en plus on va t'annoncer en disant et la touche féminine de la soirée qu'on sait pas, et c'est une fille, c'est l'exotisme de la soirée. Donc bref, bon, il y a des, voilà, il y a vraiment des progrès à faire, mais je suis consciente que je pense que c'est encore beaucoup mieux qu'avant et que il y a quand même certaines personnes qui commencent à se rendre compte que bah ouais, c'est plutôt bien de faire 50-50 voilà, filles garçons, et de bah ouais, de d'arrêter de faire des blagues sexistes, enfin bon. Je pense que ça commence à aller dans le bon sens, mais c'est clair que c'est dur, tu vois. Et là, enfin, en gros, il n'y a pas longtemps, j'ai participé à un concours d'humour. Et en fait, avec des sélections, etc., un peu partout dans la France. Et le résultat a fait qu'il n'y a que des mecs, quoi, qui ont participé à la finale. Et moi, j'ai participé donc à la sélection de Paris, et donc ils ont sélectionné deux mecs. Et en vrai, c'est vrai, tu vois, je veux dire, ce qu'ils ont présenté, c'était bien, enfin c'était propre, c'était efficace. J'ai rien à dire là-dessus. Donc, mais après, je m'interroge en fait sur le, bah, est-ce qu'à un moment donné, il faut pas se forcer à se dire, bah, tant pis, quoi. Ok, les 20 mecs, ils sont peut-être hyper forts, mais est-ce qu'on fait pas un effort, on en prend deux de moins et on donne sa chance à deux filles, quoi. Mais je pense qu'il faut attendre qu'il y ait des femmes qui commencent à ouvrir voilà, leur lieu, et je pense qu'elles seront plus attentives à ça, quoi.
Peut-être.
Mais non, mais par exemple, voilà, Shirley Soignon que je citais tout à l'heure, donc qui est une humoriste qui est voilà maintenant bien reconnue, elle a fait le Jamel Comedy Club et tout, et là elle a ouvert un comedy club à Paris en octobre qui s'appelle le Barbès Comedy Club, et justement elle programme plein de filles, elle est très
attentive
à ça, ouais. Ouais.
Alors, on reprend avec une petite blague pour changer. Donc, c'est une devinette. Qu'est-ce qu'un homme donne à Emmaüs ?
Un lit ?
Non. Son avis, tout simplement.
Comme partout.
Pas qu'à Emmaüs.
Alors, on va poursuivre l'émission avec, l'humour, à quoi ça sert, puisqu'on a l'impression qu'on n'a plus le droit de rire. Hein. Certains vont nous dire, bah oui, avec ce que vous nous dites, du coup, on n'a plus le droit de rire. Mais en fait, nous, on a envie de dire que si, qu'en fait, l'humour, ça a plein d'utilités et on a envie d'en parler. Et du coup, on a d'abord demandé à Tani ce qu'elle en pensait et à quoi, pour elle, sert l'humour.
Pourquoi est-ce que tu as choisi l'humour, en fait, pour raconter tes histoires?
Parce que je pense que l'humour, enfin, je suis très sensible à l'humour, j'ai toujours aimé l'humour, même dans ma famille, mes groupes de potes, de manière générale, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'humour autour de moi, et que c'est vraiment, moi, le moyen par lequel je sociabilisais, quoi, beaucoup. Donc, ouais, c'est venu naturellement, quoi. Et je me suis dit, je trouve que c'est un très bon message, un très bon moyen, pardon, pour justement faire passer des messages sans, entre guillemets, avoir peur de heurter les gens, ou tu vois, non. Voilà, c'est... Et puis, surtout, ça, je trouve que ça ouvre le débat plus facilement, enfin...
Que les gens sont plus réceptifs, en fait, à des blagues qu'à peut-être une conférence.
Ouais. Je dis pas que c'est entre guillemets normal, tu vois, mais parfois, si tu vas, je sais pas, si j'envoie un texte ou un article hyper vénère, par exemple, sur le féminisme, je sais que les gens, il y a certaines personnes qui vont se braquer, qui vont dire ah, j'ai pas envie de lire ton truc, machin. Alors que si tu fais une blague, sur un sujet, ils vont dire ah ok, ouais, t'as pas tout à fait tort, et après ça peut ouvrir un débat, enfin après je l'ai vu, tu vois, même par rapport à mon spectacle, que ça avait donné lieu à des discussions que moi j'aurais pas forcément abordé avec des amis ou les gens de mon entourage, quoi, un truc qui revient assez souvent, c'est, et que je dis dans mon spectacle, c'est le truc de, enfin, deux trucs, par exemple, je sais pas, genre, ne pas toucher les cheveux des personnes avec une afro, ou ne pas, enfin, se questionner sur le fait de dire black au lieu de dire noir. C'est pas des trucs que moi j'aurais abordé là au milieu d'un apéro comme ça, tu vois. Alors que là, les gens le voient dans le spectacle et après ils me disent, mais alors vraiment, ça t'arrive que les gens mettent la main dans tes cheveux comme ça sans te demander? Je dis, oui, c'est vrai.
Donc voilà, la réponse de Tani, c'est que ça permet quand même d'aborder des questions d'oppression, etc., d'une manière qui peut être plus facile par moment. Alors nous, on avait envie de dire que le rire, c'est aussi, c'est à la fois l'arme de l'oppresseur, comme on l'a beaucoup vu au début de cette émission, mais ça peut aussi permettre de rire, enfin d'être une arme contre l'oppression. Donc avec, on avait envie de faire cette distinction entre rire avec et rire de. En fait, rire de, c'est se moquer, c'est tout ce qu'on a vu depuis le début, et rire avec. Donc il y a un peu cette idée que c'est laisser le choix aux personnes de rire ou non de ce qui les fait souffrir. Et donc ça peut permettre à une personne qui ressent une oppression, si elle le décide d'en rire, lui permettre de la dédramatiser, lui permettre de se sentir un peu mieux, parce qu'en fait, il y a des fois quand on finit par rire du fait qu'on est blonde, mais plus parce que nous on a décidé de rire du fait qu'on était blonde, et parce que ça fait du bien de lâcher un peu cette oppression, par exemple, ou c'est valable pour tout type d'oppression, évidemment. Et c'est beaucoup ce qu'on voit au final dans le spectacle de Tani, qu'on a été voir nous après son interview, où elle va beaucoup rire d'elle-même, de la question de, c'est ce qu'elle disait au tout début, du fait qu'elle est lesbienne, de son coming out. Ça l'a aidée en fait à passer toutes ces étapes, à partir du moment où c'est pas qu'on se moque d'elle, mais que elle décide d'en rire. Mais c'est vrai que ça nous questionne aussi un peu, et il y a surtout une humoriste, une stand-upeuse qui s'appelle Anna Gatsby, qui a vraiment parlé de ça, de les limites de l'autodérision, parce qu'en fait on peut se dire qu'on en revient toujours à rire des oppressions au final, même si c'est choisi, au final on continue à rire de la lesbophobie, on continue à rire du fait qu'on est gros ou si ou ça ou machin, et en fait on peut se demander si quand on décide de rire de sa propre oppression, est-ce qu'on on le décide vraiment. Par exemple, si on prend un enfant qui va rire de lui-même parce que il est gros ou parce que il a un problème, est-ce qu'il le fait parce que il a décidé qu'il voulait rire de son oppression pour s'en libérer et comme arme contre l'oppression, ou est-ce qu'il le fait parce que rire continue à être quelque chose qui lui permet de se sociabiliser et de rire avec les autres, et au final il se retrouve à rire de lui-même. Donc voilà, on avait vraiment envie de questionner aussi les limites en fait de l'autodérision et du fait que ça pourrait entretenir encore et toujours les mêmes oppressions. Et du coup, Tiffany, je te laisse nous parler d'Anna Gatsby.
Oui, du coup, Anna Gatsby, on a été plusieurs à regarder son spectacle qu'on peut voir sur Netflix, en fait, qui s'appelle Nanette. Et moi, j'ai été particulièrement touchée par ce spectacle. Et aussi, il m'a amenée à me poser plein de questions, notamment sur cette question de la dérision et sur rire de soi. Parce que c'est aussi parfois quand on rit de soi-même que dans des situations, on arrive à garder, enfin à faire face ou à moins s'écrouler et à se dire qu'on est quand même, on peut quand même rester dans le groupe. Et elle fait tout un travail sur ça, où elle fait beaucoup de, elle parle beaucoup de son coming out dans son spectacle. Elle fait rire le public à plusieurs reprises sur ça, sur les violences qu'elle a vécues, parce qu'elle dit bien que sortir du placard a été une réelle souffrance pour elle. Et ce qu'elle explique aussi, c'est qu'à un moment, elle se rend compte qu'en fait, son coming out n'est plus une comédie en fait, et qu'elle veut plus que ce soit une comédie. Parce que en fait c'est sa vie, c'est pas et c'est des moments de sa vie qui ont été parfois difficiles, mais elle dit en fait en rire m'a permis de le dire et d'en faire quelque chose. Mais aujourd'hui c'est ma vie et j'ai pas forcément envie de rire de ce moment-là de ma vie. Et puis elle dit aussi que l'humour en tant que puisque elle fait du spectacle, enfin, je transforme son histoire aussi, et qu'il y a des choses de son histoire en les mettant sur le spectacle, elle sait plus trop ce qui était de sa vie réelle ou de ce qui a été transformé aussi pour le mettre en spectacle. En tout cas, elle interroge beaucoup le public et elle nous fait passer par des émotions très variées, et elle nous fait beaucoup réfléchir à travers ce spectacle. Et moi, j'aime bien ce qu'elle dit sur l'autodérision à un moment, parce qu'elle nous le dit pas au tout début, ça, bien sûr. Elle dit que l'autodérision, c'est l'expression d'une personne qui n'existe qu'à la marge, et que pour elle, c'est pas de l'humilité, mais plutôt de l'humiliation. Et du coup, ça redit ce que questionnait Audrey tout à l'heure sur ce petit garçon qui serait gros. Et est-ce que rire de lui, c'est parce qu'il veut l'assumer et s'intégrer, et à ce moment-là, ça pourrait être une forme d'humiliation, ou est-ce que c'est parce qu'il veut en faire une arme politique et se jouer de tous ces codes-là? Mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'on disait, c'est à se poser la question quand on rit avec. Est-ce que les gens rient vraiment parce que ils ont envie d'utiliser ça comme arme, ou alors est-ce que c'est parfois plus facile de rire dans un groupe et même de soi-même, parce que sinon c'est se mettre à la marge. En tout cas, voilà, nous c'est des questions qui nous ont traversées en préparant cette émission.
Oui. Et du coup, comme nous on a envie de rire d'eux, et ben je vais poursuivre avec notre quatrième blague de l'émission. Comment faire rentrer un mec dans une cuisine?
Oh, je l'adore celle-là.
Tu lui dis qu'il y a une réunion en non mixte. Voilà. Donc on va terminer cette émission sur une note positive, et on avait envie de partager nos petites stratégies face à l'humour des dominants et pour se sortir de cet humour-là. Donc on va vous en passer en revue quelques-unes. Alors une dont on a déjà un peu parlé, mais refuser de rire sur l'humour de masse et du coup qui implique d'assumer d'être rabat-joie et d'accepter de casser l'ambiance. Alors c'est pas fun, mais mine de rien, on est toutes passées par là et ça fait partie des stratégies à mettre en place. Ensuite,
Y en a une qui, peut-être à un moment, en fait, faut changer de pote. Peut-être il y a des choix là qu'il faut assumer aussi, et pas juste d'être rabat-joie, mais que peut-être si on rit jamais aux blagues des gens avec qui on traîne, c'est que
il y a un
truc qui s'est passé, ouais.
Après, il y a ce qu'on faisait ce soir, c'est apprendre des bonnes blagues sur les oppresseurs, notamment sur les hommes blancs. C'est toujours une bonne stratégie de faire des blagues en fait sur des hommes blancs, parce qu'en fait déjà c'est des blagues qu'on connaît pas. on a eu du mal à en trouver, hein, on vous rassure. Et du coup ça peut être pas mal d'en avoir un petit stock comme ça, si on se retrouve dans une soirée où on sent que les blagues dérivent, etc., on peut aussi apporter sa pierre à l'édifice et renverser un peu le courant en faisant des blagues sur les mecs. Voilà, c'est une des stratégies qu'on a listées.
Et c'est pour ça qu'on vous en donne déjà quelques-unes, pour que vous en ayez en stock dans votre poche la prochaine soirée. Une autre possibilité et une autre stratégie, c'est d'inverser les situations pour faire émerger une prise de conscience chez l'autre. Donc, que l'on peut illustrer par exemple avec un exemple très révélateur de ce qui peut être amené à se passer quand on est une meuf. C'est tu demandes à un mec de te passer la bière qu'il a dans la main parce que t'es dans une soirée et que c'est fun et que tout le monde boit un peu, et qui te dit et qu'il te répond bah oui si tu me suces la bite. Et là, plutôt que d'être mal et de se retrouver complètement tétanisé par ce que tu viens de te prendre dans la tronche, parce que c'est quand même un peu vénère.
Parce qu'on tape dans le dos en disant mais t'inquiète, c'est une blague.
Et tu peux lui dire ok si tu me lèches la chatte. Et là, tu peux t'attendre à ce moment de blanc dans lequel tu te sens la reine du monde, en fait, parce que le mec il se retrouve vraiment con et que tu as vraiment inversé la situation d'une façon à ce qu'il comprenne que c'était quand même pas si drôle que ça ce qu'il vient de te faire dire. Mais il faut espérer qu'il te dise pas oui, parce que sinon t'as intérêt à courir très vite et à partir loin, loin, loin.
Sinon, une autre, ce serait aller dans le sens de la blague en insistant. Du coup, c'est-à-dire grossir le trait et grossir la bêtise de la blague pour montrer comment c'est assez énorme, que c'est pas drôle en fait. Ça, j'ai pas d'exemple. Quelqu'un a un exemple là, mais
L'idée, c'est surtout de créer un malaise en faisant expliciter à la personne ce qu'elle est en train de dire pour qu'elle se rende compte que en fait
c'est
soit sexiste, soit raciste, etc. Enfin, en tout cas, que elle soit obligée de l'expliciter et que du coup ça crée un malaise parce que elle va dire mais parce que j'ai pas d'exemple non plus qui me viennent, mais ouais. Parce que les femmes, je sais pas quoi, ou
ouais, ou penser à, enfin j'ai pas un truc un peu dans le même style que tout à l'heure, mais du coup si on couche ensemble, un truc comme ça, et puis lui dire ok on y va, enfin, et du coup montrer à quel point il te fait une blague, mais à quel point en fait c'est pas drôle, quoi, et tu le mets face au fait que il t'a sorti un truc que tu vas pas faire en fait, par exemple.
Sinon, on en avait une autre aussi, c'est ce qu'on appelle un bip badaboum. Là, ce serait dans l'idée d'avoir un outil collectif pendant une soirée ou même pendant une réunion, parce qu'on a aussi des mauvaises blagues en réunion, hein, pas qu'en soirée. Ce serait l'idée qu'il y ait un mot de code qui serait bip badaboum pour à tout moment où il y a un propos sexiste, homophobe, raciste, en tout cas là une blague en l'occurrence, pour justement se reconnaître à travers ça et puis surtout espérer que ça stop et que ça montre que là en fait le propos est inapproprié. Voilà, c'est l'idée de que ça se développe un peu partout. Donc on peut commencer parmi toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui, bip badamoum, dès qu'il y a un propos sexiste, homophobe, raciste, ben voilà, faut dire ça dans l'assemblée et puis peut-être qu'on se reconnaîtra et surtout on se sentira moins seul. Parce que réagir à des blagues pourries quand on se sent un peu tout seul dans un groupe, c'est dur. Mais si on entend des bip badaboum, déjà, ça va peut-être arrêter. Et puis en plus, on va se dire « Ah, je suis pas toute seule ». On peut assumer plus facilement aussi en étant en collectif qu'en étant en se sentant isolé dans des espaces.
Bah, c'est sûr que d'assumer d'être rabat-joie dans une soirée, c'est plus facile si t'es pas tout seul. Quoi. Souvent, savoir que t'as des alliés dans la soirée qui vont t'aider, ou soirée ou autre hein, d'ailleurs, parce que malheureusement, ça n'arrive pas qu'en soirée, l'humour de merde. Mais ça aide quand même pas mal, quoi.
Voilà pour les petites stratégies. On va terminer du coup cette émission. Alors, on avait envie de vous dire déjà que si vous souhaitez nous contacter, c'est toujours possible de nous contacter par mail à l'adresse emissionfeministetour@riseup.net et que vous pouvez nous réécouter bien sûr sur Radio Campus en podcast.
Et sur le site des Radios Rageuses.
Et sur le site des Radios Rageuses également. On avait aussi envie de vous recommander la lecture de, parce qu'on ne l'a pas cité, je crois, la brochure « L'humour est une arme » dont on s'est inspiré aussi pour vous raconter tout ce qu'on a raconté ce soir et qu'on mettra du coup, dont on mettra le lien en ligne sur le podcast.
Et on voulait finir par une petite blague avant d'enchaîner avec une musique. Tiffany, à toi l'honneur.
Ah oui, j'aime bien celle aussi. Quel est le point commun entre se marier et l'alpinisme? Bah, faut pas avoir peur du vide.
se marier dans un cadre hétérosexuel, on aurait pu préciser. Bref. Ouais. on va remercier les personnes présentes ce soir qui nous ont accompagnées pour cette émission, qui ont rigolé avec nous. Merci Tiff pour la technique. Audrey et moi-même étions en studio.
Merci Béné pour la super animation. Et donc on s'écoute Ich liebe dich de Shai.
Et on vous retrouve là le mois prochain.
Parle pas beaucoup, sinon parle pas. C'est ce qu'on t'a appris, non? Pourquoi tu fais pas comme je t'ai dit? Si je dois le la 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 la, c'est pas pour la 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 la, ni pour la 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 la. Pourquoi tu fais pas comme je t'ai dit? J'ai préparé l'album en silence, j'vois les voisins frapper à ma porte, me dire faudra baisser le son. Ne me donne pas d'heure, je serai jamais à l'heure. Ça fait longtemps que je suis en avance sur ma montre. Si un jour ces enfants de bâtards pas reconnus m'arrivent à la cheville, ce sera pour me tirer les pompes. Personne, non, personne n'aura jamais les mots ni les paroles pour me convaincre de donner un pardon. J'ai envie de te dire, ich liebe dich. Quand tu ne parles pas, quand tu fermes ta bouche. J'ai envie de te dire, ich liebe dich. Quand tu ne parles pas, quand tu fermes ta bouche. Parle pas beaucoup, sinon parle pas. C'est ce qu'on t'a appris, non? Pourquoi tu fais pas comme je t'ai dit? Si je sors le la 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 la, c'est pas pour la 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 la, mais pour la 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 la. Pourquoi tu fais pas comme je t'ai dit? C'est celui qui dit qu'il aime, mais quand tu me traiteras mieux, tu ne seras jamais au niveau et je serai même pas désolé. Bon bigo pour les pixels, répertoire a pris du standing. Si je pars combien de larmes dont il est sauvé. Ceux qui ne comprennent pas ne s'expliquent pas, les miens savent ce que je veux, ils n'ont pas posé de questions. J'entends plus les salopes, les cons, les biches, les enfoirés, les putes, leurs fils qui n'osent pas me donner raison. J'ai envie de te dire, ich liebe dich. Quand tu ne parles pas, quand tu fermes ta ta bouche. J'ai envie de te dire, et je les vais riches.